VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 24 janvier 2022. Jean-Roger Dion à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, au Burkina Faso, l'armée dit avoir déposé le président et suspend la constitution. Cinglant réveil électoral pour le pouvoir au Sénégal dans les grandes villes lors des municipales de dimanche. Dakar et Ziguinchor sont aux mains de l'opposition selon les résultats provisoires. Escalade dans le conflit ukrainien, les États-Unis ont commencé à envoyer de l'aide pour la défense de l'Ukraine. Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun, Emmanuel Jules Ntap nous rejoindra au cours de cette édition dans le journal des sports. L'armée du Burkina Faso a annoncé aujourd'hui avoir renversé le président Roch Kabore, suspendu la constitution et dissous le gouvernement et l'Assemblée nationale. L'annonce a été faite dans un communiqué signé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'homme fort de Ouagadougou, élu par un autre officier à la télévision nationale.
Au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de notre nation, de l'incapacité manifeste du pouvoir de M. Roch Marc Christian Kabore à unir les Burkinabés pour faire face efficacement à la situation et suite à l'exaspération des différentes couches sociales de la nation, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR a décidé d'assumer ses responsabilités devant l'histoire, la communauté nationale et internationale. Le MPSR rassure également les partenaires et amis du Burkina Faso quant à la ferme volonté de notre pays de continuer à respecter ses engagements internationaux, notamment en matière des droits de l'homme, et s'engage à proposer dans un délai raisonnable, après consultation des forces vives de la nation, un calendrier de retour à un ordre constitutionnel.
Roch Marc Christian Kabore invite dans un message publié aujourd'hui sur son compte Twitter ceux qui ont pris les armes à les déposer et prendre le dialogue et l'écoute, ce qui en rajoute à la confusion ambiante au Burkina Faso. Pour une analyse de la situation, Nani Talani a joint à Ouagadougou Paul Miki Rwamba, journaliste et analyste politique.
Les militaires ont confirmé avoir pris le pouvoir. Ils sont sortis tout à l'heure à la télévision nationale. C'est un groupe de militaires qu'on a vu. Et puis le porte-parole a lu deux communiqués. Le premier communiqué qui dit donc qu'il a mis fin au pouvoir du président Roch Marc Christian Kabore. Mais avant cela, ils ont évoqué un certain nombre de situations, notamment le désarroi du peuple burkinabé, l'incapacité du président à venir à bout de l'insécurité. Et puis, ils disent également avoir écouté les différentes plaintes qui ont été exprimées par les Burkinabés à travers les récentes manifestations. Donc, ils disent avoir décidé de prendre leurs responsabilités. Ils ont mis en place un comité qui a donc décidé de prendre le pouvoir. Ils ont dit qu'ils vont donc travailler avec toute la classe politique pour la mise en place donc certainement d'une transition qui soit très consensuelle. Ils ont également tenté de rassurer les partenaires étrangers du Burkina par rapport à cette situation. Ça, c'était l'essentiel du premier communiqué. Le second communiqué suspend le gouvernement. Il suspend également l'Assemblée nationale. Il suspend la Constitution. Il décide de la fermeture des frontières terrestres et aériennes du Burkina jusqu'à nouvel ordre et instaure un couvre-feu de 21h à 5h du matin.
Comment la population a-t-elle accueilli ces informations qui viennent de l'armée?
Curieusement, il n'y a pas eu de manifestation du tout dans la rue. Les gens ne sont pas sortis ni pour manifester en soutien aux militaires, ni également une manifestation pour soutenir le régime du président Kabore. Par contre, on a vu des réactions sur les réseaux sociaux. Je vous l'ai dit le matin, effectivement, Internet mobile est coupé au Burkina. Mais quand on a le Wi-Fi, on arrive donc à se connecter. Donc ce matin, personnellement, j'ai pu lire donc les réactions des Burkinabés à travers les forums des médias. Je vois que la quasi-totalité des Burkinabés sont favorables même à cette situation de coup de force qui est intervenue, curieusement. Donc, du coup, on se pose la question de savoir à quel moment le chef de l'État, Roch Kabore, a pu être impopulaire jusqu'à ce point, au point que personne ne manifeste pour soutenir. On a même appris dans les coulisses que le parti au pouvoir avait voulu que des gens manifestent pour dire non à ce coup de force, mais personne n'a voulu sortir justement pour cela.
Et le président burkinabé lui-même, il a démissionné?
Non, il n'a pas démissionné formellement. Le communiqué aussi ne dit pas ça. On ne sait pas comment ça va se gérer. Mais dans tous les cas, les militaires disent avoir mis fin à son pouvoir. Et ils ont même précisé qu'il y a eu des personnalités, effectivement, qui sont détenues en lieu sûr. Donc, ça veut dire que le chef de l'État est entre leurs mains et il n'est pas seul. On avait appris à un moment donné que le premier ministre également avait été arrêté On n'a pas la confirmation. Et certains membres du gouvernement aussi, y compris le président de l'Assemblée nationale, maintenant le communiqué vient peut-être confirmer cela parce que tout porte à croire que le chef de l'État n'est pas le seul détenu entre les mains des militaires aujourd'hui.
Par contre, personne n'a encore vu le président Marc depuis ces événements.
Non, personne n'a vu le président. On l'a pas vu. Bon, la nuit dernière, des témoins ont dit qu'il y a eu quand même des coups de feu autour de sa résidence privée. Maintenant, comme les gens étaient sous couvre-feu, personne n'est sorti pour constater. Mais en tout cas, moi-même, j'habite pas très loin du quartier où habite le chef de l'État. On a entendu tous ces coups de feu autour de 23h minuit. On a même vu un hélicoptère survoler le ciel de son domicile, car la nuit, le matin, des gens ont vu des véhicules criblés de balles abandonnées, non loin de sa résidence, et c'est tout.
Paul Miki Rouamba, journaliste et analyste politique. Le président Roch Kabore n'est plus apparu en public depuis les fusillades survenues dimanche dans plusieurs casernes de l'armée, alors que des soldats demandaient davantage de moyens pour lutter contre le groupe djihadiste Al-Qaïda et État islamique. Plusieurs manifestations ont précédé le coup de force en cours. Lamine Traoré a tendu son micro aux habitants de la capitale burkinabé.
Aujourd'hui, nous sommes sortis pour soutenir l'armée, pour dire merci encore, un grand merci à l'armée pour le travail qu'ils ont abattu. Ils ont soulagé toute la nation. Très sincèrement, je suis content, je suis fier. Et que celui qui va venir, le nouveau homme fort qui va venir prendre ce pouvoir-là, qu'il soit vraiment à la hauteur de nos attentes. Très sincèrement, nous sommes très heureux.
La population a libéré Rochmar Christian Kabore pour pouvoir que la lutte continue. Voilà. Mais maintenant, on sait, dans peu d'état seulement, on va, la déclaration va venir tout de suite pour qu'on puisse savoir celui qui va diriger le pays pour libérer toute la nation.
J'ai vu l'attroupement, mais les nouvelles sont bonnes. Parce que nous, on a vu que non, et Roch, c'est pas qu'il ne peut pas, mais il ne peut pas. À partir du moment où il ne peut pas, l'armée doit prendre ses responsabilités pour amener la paix dans ce pays. Voilà pourquoi nous sommes passés pour soutenir, en tout cas, cette lutte-là. Voilà, donc bon, on souhaite que la paix revienne, mais il faut seulement que l'armée prenne ses responsabilités pour que le Burkina Faso et le Mali puissent aller à Lima pour faire front aux terroristes.
On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on a confiance à l'armée burkinabé. Donc, s'ils ont pris leurs décisions, on sait que c'est la bonne. Qu'est-ce que tu vois? Parce que ça a tellement duré. La population souffre, les Burkinabés souffrent, l'Afrique souffre. Il était temps en fait, il était temps. Ça a trop pris du temps même. Ils vont gérer ça vite fait et bien fait aussi.
Si c'est un coup d'État, vivre les choses, c'est pour libérer, c'est pour nous libérer de dans certaines situations quoi, que nous vivons actuellement. Si cela peut apporter vraiment un vrai changement dans les choses, dans les situations, bon, moi je trouve pas ça anormal quoi. Si ça peut contribuer beaucoup dans la situation quoi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Soudan, les forces de sécurité ont tiré ce lundi des grenades lacrymogènes sur des milliers de manifestants, aussi le pouvoir militaire, au quatrième mois d'une mobilisation populaire contre le putsch qui ne faiblit pas en dépit d'une répression meurtrière et de nouvelles rafles. Les manifestants ont tenté de nouveau de converger aujourd'hui vers le palais présidentiel où siège le dirigeant de facto du pays, le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan, sous les tirs de grenades lacrymogènes des forces de sécurité. Les autorités burundaises n'ont pas mené d'enquête transparente, crédible et impartiale sur l'incendie de la prison centrale de Gitega le 7 décembre, a déploré lundi Human Rights Watch, estimant que plusieurs centaines de prisonniers pourraient avoir été tués ou blessés. Selon un bilan officiel donné le jour même par le vice-président burundais, Prosper Bazombanza, 38 des 1500 détenus ont trouvé la mort et 69 autres ont été blessés dans l'incendie qui s'est déclaré dans cette prison vétuste et surpeuplée de la capitale politique du Burundi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité hors du continent, l'Organisation mondiale de la santé a estimé aujourd'hui que la fin de la phase aiguë de la pandémie est peut-être à portée de main dès cette année. Pour y parvenir, les pays ne doivent pas rester les bras croisés et doivent, entre autres, lutter contre l'iniquité vaccinale, surveiller le virus et ses variants et prendre des mesures de restriction adaptées, a expliqué son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus à l'occasion de l'ouverture du comité exécutif de l'OMS qui se réunit cette semaine à Genève. L'OTAN a placé aujourd'hui ses forces en état d'alerte et décidé d'envoyer des renforts en Europe de l'Est sur fond de crise ouverte entre la Russie et les puissances occidentales qui redoutent une opération militaire russe en Ukraine. Cette annonce intervient alors que les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé l'évacuation d'Ukraine d'une partie de leur personnel diplomatique et de leurs familles face à la menace jugée croissante
d'une invasion du pays par la Russie. Le Kremlin a accusé aujourd'hui les États-Unis et leurs alliés d'aggraver les tensions, qualifiant d'hystérique l'attitude des puissances occidentales. Le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé lundi l'Union européenne à rester unie face à la Russie lors d'un entretien avec le président du Conseil européen et après des déclarations controversées de responsables allemands. M. Zelensky a souligné que pour l'Ukraine, il est important de préserver l'unité de tous les pays membres de l'Union européenne quant à la protection de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de son pays sur fond de crainte d'une invasion russe, a indiqué la présidence ukrainienne dans un communiqué. La Gambie crée à nouveau la surprise et se qualifie pour les quarts de finale. Elle a battu la Guinée ce soir 1-0. Elle rejoint le Burkina Faso et la Tunisie qui ont obtenu leur ticket hier face au Gabon et au Nigeria. Le journal de la CAN à Yaoundé, Emmanuel Jelentap.
Bonsoir. La CAN opère ses choix sur le terrain lors des matchs qui tout double, qui se disputent depuis hier. Déjà, une sélection de premier rang, présumée favori, a payé les frais du suspense des huitièmes de finale. Le Nigeria a été éliminé par la Tunisie sur le score étriqué de 0-1 à la grande surprise de plusieurs observateurs, sauf de Jules Valentin Ngoué, que nous retrouvons dès l'entame de ce journal des sports depuis Libreville pour le coup de sifflet du jour.
Décidément, les matchs à élimination directe ont du mal à réussir aux équipes qui brillent le plus au premier tour. Elles sont attendues, minutieusement scrutées par l'adversaire du jour, pour finir par céder tactiquement, victime de la pression qui fragilise le favori désigné, surtout lorsque le scénario de la rencontre, avec un but piège marqué en début de match, vient compliquer l'équation. Lors de la décennie passée, même le Cameroun de Samuel Eto'o et la Côte d'Ivoire de Didier Drogba en ont été victimes. Les Super Eagles du Nigeria viennent, eux, d'en faire les frais au stade de Garoua face à une formation tunisienne toujours aussi tactique, rusée et qui adore avancer masquée. Cette défaite surprise du Nigeria, couplée à l'élimination précoce de l'Algérie au premier tour, prive encore notre édition camerounaise de notre potentiel favori, brouillant une fois de plus les radars. En football, rien n'est gagné à l'avance, et qui plus est, et qui plus que le pays organisateur doit le savoir. À bientôt.
La qualification du Burkina Faso pour les quarts de finale étant acquise, quelles sont les leçons à tirer de cette rencontre au cours de laquelle les étalons ont manqué à plusieurs reprises l'occasion de tuer le match dans le temps réglementaire? Kamou Malo est l'entraîneur du Burkina Faso.
N'oubliez pas que c'est un huitième de finale. C'est comme ça, ça va se jouer. Et ne pas gagner ce match au terme de 90 minutes, on peut nourrir quelques regrets. Mais il faut aussi se dire que tout peut arriver dans pareilles circonstances. Alors, je pense que ce que nous allons retenir pour l'instant, c'est de savourer notre victoire acquise de haute lutte. Parce que l'adversaire en face avait des arguments à faire valoir. Ça, il faut aussi le reconnaître. Il faut aussi se dire que tout peut arriver dans pareilles circonstances. Alors, je pense que ce que nous allons retenir pour l'instant, c'est de savourer notre victoire acquise de haute lutte, parce que l'adversaire en face avait des arguments à faire valoir. Ça, il faut aussi le reconnaître. Alors, même si nous avons péché quelquefois par naïveté, c'est surtout ça, généralement, les équipes qui loupent autant d'occasions et se font éliminer par la suite. Et nous sommes heureux d'être toujours debout, et c'est ce que je vais retenir pour l'instant.
Kamou Malo, l'entraîneur du Burkina Faso, au micro de Kader Traoré. Éliminé par le Burkina Faso en huitième de finale, le Gabon sort la tête haute de la compétition, mais les supporters des Panthères à Libreville veulent vite oublier cette page de l'histoire de leur 11 national. Ils saluent néanmoins la bravoure d'un collectif à la hauteur des débats. Nous les écoutons au micro de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianze.
Ceux qui ont pris part à cette compétition quand même avaient le moral. Ils ont quand même, ils se sont battus selon leur niveau de professionnalisme. Ils se sont vraiment battus parce que ils se sont donnés à fond. C'est comme on dit, il fallait bien un vainqueur parce que s'il s'agit d'un concours, on a besoin d'un vainqueur. Donc seul le Burkina a pu remporter quand même le match. C'était intéressant, mais sinon le match était vraiment très très difficile.
Ils sont forts. Ils nous ont montré. Ça, c'était une finale. Nous avons assisté à une finale. Je suis fier de mes petits frères, de mes grands frères. Et Kouélé, c'est le capitaine. Vous avez prouvé aux Gabonais que d'où on vient, on peut toujours réussir. Mais on a joué à 10 et les autres ont joué à 12.
Depuis le coup d'envoi de la CAN, le Covid-19 s'est invité dans la compétition et impose une bonne dose d'incertitude dans les staffs techniques quant à la disponibilité des joueurs. L'épisode de la sélection des îles Comores, qui a enregistré jusqu'à 12 cas positifs au Covid, staff, technique et joueurs, avant son match de 8e de finale contre le Cameroun, a même fait naître quelques suspicions sur la crédibilité des 10 tests. Certains n'ont pas hésité de s'interroger pourquoi les Lions indomptables sont-ils si épargnés par des cas de Covid-19. Écoutons la réponse à cette question du latéral gauche du Cameroun, Ambroise Eyongo Bitolo.
Je pense qu'on est loin de la ville et on fait très attention. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de visite. Le médecin, il fait ce qu'il a à faire. Et nous aussi, on fait attention parce qu'on sait qu'on a besoin de tout le groupe pour pouvoir finir la compétition. Donc les cas Covid, c'est pas à nous, c'est nous, on fait attention. Et le doc aussi fait son travail.
Précisons que Véron Mosongo Omba, le secrétaire général de la CAF, avait annoncé avant le début de la compétition qu'un laboratoire indépendant avait été retenu par la CAF pour faire les tests Covid des joueurs et membres des délégations officielles. Les huitièmes de finale se poursuivent demain avec Sénégal-Cap-Vert à Bafoussam et Maroc-Malawi au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé. C'est tout pour le journal de la CAN, Kader Traoré, Ismaël Obianzé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Sénégal, les mairies de grandes villes comme Dakar, Thiès et Zinguinchor vont échapper au contrôle de la coalition au pouvoir. Ce sont les premiers enseignements des résultats des élections locales de dimanche. C'était la première fois que les Sénégalais étaient appelés aux urnes depuis la présidentielle de 2019, remportée par le chef de l'État Macky Sall. Pour une analyse sur la signification des résultats de dimanche, Abdourahmane Dia a joint à Dakar le journaliste et analyste politique Serigne Saliou Gueye.
Dakar qui était la mère des batailles, finalement les résultats ont créé une sorte de séisme au sein même du pouvoir parce que presque Dakar a été complètement raflé par les candidats de Yewi Askan Wir. Maintenant au-delà de Dakar, la nouveauté c'est surtout au niveau de la banlieue où on a senti aussi une percée de Yewi Askan Wir parce qu'actuellement au moment où on parle, Yewi Askan Wir est en train de remporter la ville de Guédiawaye, dirigée bien sûr anciennement par Ali Sall, qui est le frère du président de la République. Maintenant, là aussi, la lecture qu'on doit en faire, c'est que ces élections-là dépassent simplement le cadre d'un enjeu local et pour prendre bien sûr une dimension purement nationale. Parce qu'on a l'impression, surtout avec le taux de participation qui tourne autour de 55%, on a l'impression qu'on avait une élection présidentielle.
Un taux de participation inédit pour les élections locales, c'est un peu un avant-goût de 2024 avec l'échéance de l'élection présidentielle. Beaucoup pensent que c'est un peu un message en direction du président Macky Sall concernant le débat sur le troisième mandat. Vous êtes d'accord ou pas?
Bon, du côté même du pouvoir, le directeur de cabinet politique du président de la République, une fois dans ses sorties, avait dit que l'importance de ces élections-là nous permettra de régler la question du troisième mandat. D'ailleurs, son leader, Macky Sall, avait fait une sortie en disant que ça a été une erreur politique, en tout cas de communication de la part de son directeur de cabinet. Mais ce qui est sûr et certain, ça n'a pas été une erreur politique. Ce qu'il a dit, même les gens de l'opposition, les leaders de l'opposition, une fois même Ousmane Sonko l'avait dit, l'importance de ces élections-là, ça prend même une tournure, la tournure d'une élection présidentielle. Et qu'aujourd'hui, il y a eu Askan Wir, en tout cas l'opposition parvient à rafler les principales localités du pays, c'est-à-dire où il y a un fort grenier électoral, ça permettra de résoudre la question même du troisième mandat.
Alors, est-ce que vous pensez que les manifestations meurtrières du mois de mars 2021 à la suite de la convocation par la justice sénégalaise du principal opposant Ousmane Sonko ont eu un effet sur les résultats qu'on a constatés hier dimanche?
La lecture que le président devait faire des événements de mars dernier, de tout simplement dit qu'il y a un malaise profond qui traverse le pays. Le chômage, l'économie qui ne marche pas, le problème de sécurité dans le pays. Et ça a fini, bien sûr, l'occasion quand même, c'était tout simplement les événements de ce qui est arrivé, bien sûr, entre Ousmane Sonko et Issa. Ça n'a été que l'étincelle qui a mis tout simplement le feu à la paille. Mais au fond de tout cela, quand même, il y a un réel malaise social au sein même du pays.
C'était l'analyse politique Serigne Saliou Gay.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Les associations panafricanistes de la diaspora africaine des États-Unis et la communauté malienne ont manifesté samedi devant l'ambassade de France, ici même à Washington, pour apporter leur soutien aux autorités de la transition malienne. Compte rendu, Modibo Dambélé.
Samedi 22 janvier 2022, la communauté malienne de Washington DC, de concert avec les leaders des associations panafricanistes de la diaspora, étaient tous devant l'ambassade de France pour apporter leur soutien, dit-on, aux autorités de la transition malienne. Tchadiens, Sénégalais, Camerounais, Nigériens, tout le monde y était à l'appel. Eric Eddy, ancien président de l'association des Ivoiriens de Washington DC et président de la coalition des communautés africaines, scandait des slogans hostile à la présence française en Afrique.
Nous soutenons la transition au Mali, oui ou non ?
Oui !
Nous condamnons la position bizarre de la France, oui ou non ?
Oui !
La France dehors !
Dehors !
La France dehors !
Deux responsables tchadiens que nous avons rencontrés sur place soutiennent fermement les autorités maliennes et les encouragent par rapport aux actions envisagées.
Moi, c'est Dan Kusidi, je suis tchadien et je suis là pour soutenir le peuple du Mali. Quand le Mali va changer, l'Afrique va changer. Dans mon pays, la démocratie en Afrique, c'est des désordres totaux.
L'ancien président de l'association des Maliens de Washington, en la personne de Issa Sangaré, qui s'est dit panafricaniste, fustige également la France et demande le départ des troupes françaises de l'Afrique, même si l'on sait que c'est Bamako qui a fait appel à la France en 2012 pour combattre l'arrivée des hordes djihadistes dans le Sahel.
Nous sommes là pour dénoncer l'ingérence de la France, pour dénoncer la duplicité de la France et pour dénoncer la politique française en Afrique.
Demander le départ des troupes françaises et appeler la Russie et la Chine au secours n'est-il pas antinomique? Issa pense autrement.
Non, c'est pas un contre-truc, c'est que la Russie est un allié de longue date du Mali, y compris la Chine. Jusqu'à présent, 60 à 70% des cadres de l'armée du Mali sont formés en Russie.
L'UNESCO a publié ce lundi son rapport mondial sur l'éducation. Il conclut que les pays ne s'attendent pas à atteindre les objectifs mondiaux en matière d'éducation pour 2030. Pour quelles raisons et quel impact le coronavirus a-t-il sur l'éducation en Afrique? Nani Talani a joint Manos Antoninis, le directeur du suivi mondial sur l'éducation à l'UNESCO.
Grande conclusion de ce travail qui est complète avec la collaboration, le partenariat de l'Institut des statistiques de l'UNESCO, on remplit une grande promesse que les États membres de l'UNESCO ont fait en 2015 pour définir leur point de référence sur les indicateurs plus importants de l'agenda 2030 des Nations Unies pour l'éducation. Parce que quand on a commencé en 2015, on a mis en place des objectifs très ambitieux qui sont vraiment pas nécessairement juste pour tous les pays, parce que c'est pas possible d'achever en 100% en taux d'achèvement pour tous les enfants du monde quand il y a des pays qui commencent des niveaux très bas. Et alors, il faut ajuster les objectifs qui sont proportionnels au niveau initial du pays.
Cela fait 2 ans que nous vivons avec la pandémie de coronavirus. En Afrique notamment, comment est-ce que cette pandémie affecte l'éducation?
Ça dépend parce que pas tous les pays ont fermé les écoles pour la même durée. Il y a des pays, comme c'était bien sûr bien couvert par les médias internationaux, comme l'Ouganda, qui ont fermé les écoles pendant quasiment 2 années. C'est une période très longue et il y a peur que les conséquences pour les enfants sont vraiment sévères. Et il y a des autres pays comme le Burundi où les écoles étaient quasiment jamais fermées.
Quelles observations faites-vous concernant l'écart entre les garçons et les filles à l'école?
Il y a quelques pays, peut-être dans l'Afrique de l'Ouest, où on observe des écarts plus importants qu'il faut encore battre. Les stéréotypes et les traditions ferment la route à l'école pour les filles. Mais dans la plupart, il faut aussi savoir que le monde change assez rapidement et le problème qui va rester, c'est le niveau bas d'apprentissage.
Manos Antoninis, le directeur du suivi mondial sur l'éducation à l'UNESCO. Les États-Unis ont commencé à envoyer de l'aide pour la défense de l'Ukraine. Cette décision intervient alors que le président russe Vladimir Poutine a stationné plus de 100 000 soldats le long de la frontière ukrainienne. Tout mouvement de ces troupes en Ukraine serait considéré comme une invasion, a déclaré récemment le président américain Joe Biden. Les diplomates russes et américains ont convenu de poursuivre le dialogue pour réduire les tensions. Reportage Arash Arabasadi de la VOA, récit Jacques Aristide.
La première cargaison d'aide américaine est arrivée en Ukraine après les pourparlers de vendredi dernier entre Washington et Moscou. D'après l'ambassade des États-Unis à Kiev, la cargaison contient plus de 90 tonnes d'aide létale, dont des armes et des munitions. Un envoi qui intervient alors que les renseignements britanniques mettent en garde contre le projet russe d'installer un président pro-russe en Ukraine, ce que Moscou nie. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken indique que les États-Unis et leurs alliés ont un message clair et unifié envers le Kremlin. C'était lors de l'émission State of the Union de CNN dimanche.
We've given Russia two paths. There's a path of diplomacy and dialogue, one that I engage in with Foreign Minister Lavrov.
Nous avons donné à la Russie deux voies. Il y a la voie de la diplomatie et du dialogue, celle que j'ai engagée avec le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov la semaine dernière à Genève. Mais il y a aussi la voie de son agression renouvelée et les conséquences massives qui sont vues depuis de nombreuses semaines maintenant. Il n'y a pas que nous qui le disons. Le G7, les principales économies démocratiques du monde, a été clair à ce sujet. L'Union européenne a été claire à ce sujet. L'OTAN a été claire à ce sujet.
À l'heure où les tensions continuent de croître avec l'Occident, le ministère russe de la Défense a publié samedi des images montrant des navires de guerre russes, iraniens et chinois lors d'exercices militaires conjoints dans le golfe d'Oman. D'autres manœuvres similaires sont envisagées. Pendant ce temps, les législateurs américains évaluent leurs options pour désamorcer la situation. Au cours du programme This Week d'ABC dimanche, le sénateur démocrate Chris Coons, membre de la Commission des relations étrangères, a appelé à des sanctions américaines contre la Russie.
Je pense que nous devrions examiner et adopter un projet de loi bipartite qui montrera de la détermination et de la fermeté en imposant des sanctions maintenant. Mais les sanctions les plus fortes, le genre de sanctions que nous avons imposées pour amener l'Iran à la table des négociations, il s'agit de quelque chose que nous devrions présenter comme un moyen de dissuasion pour empêcher Poutine de faire le dernier pas pour envahir l'Ukraine.
Des avions de chasse russes, vus dans une vidéo publiée samedi par le ministère russe de la Défense, ont entamé des vols vers le voisin de l'Ukraine, la Biélorussie, où des responsables affirment tenir des exercices de préparation au combat. Dans l'émission This Week d'ABC dimanche, la sénatrice républicaine Joni Ernst, membre de la commission des services armés, a critiqué la Maison-Blanche et a déclaré que le moment était venu d'infliger des sanctions avec des effets paralysants.
So far with this administration, we have seen a doctrine of appeasement.
Jusqu'à présent, avec cette administration, nous avons vu une doctrine d'apaisement. Et cela ne va certainement pas dissuader le président Poutine et la Russie d'envahir l'Ukraine. Alors assurons-nous d'empêcher cela avec des sanctions sévères en tenant à montrer à Poutine que nous sommes sérieux.
Le Kremlin réclame que l'Ukraine ne soit jamais autorisée à entrer dans l'OTAN, une requête qui demeure le principal point de friction dans les négociations entre l'Occident et la Russie. Pour les États-Unis, la demande n'est pas envisageable. Américains et Russes entendent reprendre les discussions sur l'Ukraine pour apaiser les tensions face aux craintes d'une invasion russe dans l'ancienne République soviétique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.